Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour chers auditeurs, vous le savez, il faut toujours cultiver son jardin, c'est Voltaire qui nous l'a appris. Eh bien nous allons cultiver aujourd'hui notre jardin de la Fontaine avec Véronique Krings qui est mon invitée d'aujourd'hui sur Antiquissimo et sur Radio Alliance Plus. Bonjour Véronique.
Ah bah bonjour Martine, bonjour aux auditeurs.
Alors, malgré le léger, très léger accent belge que vous entendrez peut-être, mais je ne sais même pas, dans la bouche de notre chère Véronique Krings, malgré ce léger accent belge qui dit qu'effectivement, elle est native de Liège, c'est bien ça ?
Oui, la cité Mosane, la peine du Nord.
Voilà, où les Romains furent présents aussi, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Mais malgré ce léger accent en belge, il n'y a peut-être pas plus ni moins que vous, Véronique. Vous êtes professeure d'histoire de l'Antiquité à l'Université de Toulouse, c'est bien ça ?
Oui, j'enseigne l'histoire romaine.
L'histoire romaine. Et d'ailleurs, vous êtes connue dans le domaine de l'Antiquité. Moi, je vous connais pour votre spécialité sur Carthage, hein, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui.
Non, c'est ça, oui. Nous allons parler de Nîmes,
voilà.
comme vous disiez, du jardin de la Fontaine.
Voilà. Alors, vous êtes venue déjà à Nîmes de quantité de fois, on va en reparler tout de suite, mais vous étiez aussi l'invité du Forum du Livre Péplum il y a quelques années, et justement, vous aviez parlé de Carthage. Alors, aujourd'hui, un magnifique livre qui est conduit par vous, Véronique Krings et François Punière, aux éditions Mergoil. Et ce livre s'appelle, avec une magnifique couverture, « De la source au jardin » et le sous-titre « La fontaine de Nîmes ». Alors Véronique, on va quand même dire que, je disais, vous étiez nîmoise de cœur en tout cas, parce que vous avez beaucoup travaillé à Nîmes, et notamment aux côtés de Dominique Darde, je crois.
J'ai vécu quelques années à Nîmes, et j'ai apprécié beaucoup la ville de Nîmes et ce mélange de l'Antiquité et de cette présence de l'Antiquité au présent. Et j'avais de fait eu l'occasion de présenter au musée archéologique, grâce à Dominique Darde, le musée était toujours au boulevard Courbet, une exposition sur l'archéologie dans l'Empire ottoman. Donc c'était il y a quand même déjà quelques années, mais oui, c'est un excellent souvenir d'avoir pu présenter une collection de photographies anciennes de voyageurs et d'archéologues dans l'Empire ottoman au tournant du 19e siècle.
Alors justement, c'est une de vos particularités. Vous connaissez parfaitement l'Antiquité, mais ce qui semble vous intéresser, c'est un angle bien particulier et passionnant, car vous êtes historienne de l'Antiquité et de ses réceptions, ainsi que votre collaborateur François Punière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, historienne de l'Antiquité et de ses réceptions ?
Peut-être bien rappeler qu'avec François Punière, ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est l'intérêt commun que nous portons à cette réception de l'Antiquité. François, lui, Punière est plutôt un moderniste, un historien moderniste. Moi, je suis une historienne antiquisante. En cette notion de réception, en quelques mots, c'est pas facile à faire.
Oui, je sais, la question est difficile.
Voilà, donc c'est une recherche qui s'est beaucoup développée aujourd'hui. J'essaierai de résumer en disant qu'on est tous bien d'accord que l'Antiquité est la première des périodes historiques, la plus éloignée de nous, la plus longue. Et donc, a priori, on pourrait se dire, dans notre rapport à nous au temps, qui fait défiler le passé, le présent, puis le futur, l'Antiquité étant passée, elle est morte, c'est terminé. Or, nous avons, je pense, tous conscience qu'elle est encore bien présente dans des grands personnages, Alexandre le Grand, Jules César. À Nîmes, je pense aux grands jeux romains, aussi dans les monuments, qu'ils soient en ruine ou qu'ils soient réutilisés aujourd'hui, dans des idées comme la démocratie. Bref, cette antiquité, elle n'est pas morte avec la fin de l'antiquité, et au contraire, elle a cessé, on va dire, d'être réutilisée, voire instrumentalisée, parfois mise à distance, parfois rejetée. Donc l'idée, c'est, en étudiant les réceptions d'Antiquité, c'est de voir comment cette Antiquité a été justement perçue, je disais, au fil du temps. Donc François Hartog écrivait, c'est une histoire de second degré, c'est-à-dire qui est soucieuse approche assez féconde, qui est éclairante pour l'Antiquité, mais qui éclaire aussi la période, on va dire, qui reçoit l'Antiquité.
Oui, et on est tous effectivement conscients que l'Antiquité, elle existe. On essaie de la connaître, de la comprendre, mais nous la voyons avec chaque fois un œil différent. Et donc, nous la refaisons.
Regard, oui, et oui tout à fait.
Nous la refaisons à notre façon. Et justement, dans ce livre, c'est exactement ce que vous faites d'une manière très précise. Je vais y revenir, mais d'abord, dire que ce livre, avant ce livre, il y en a eu d'autres, et vous aviez la même démarche.
Oui. Alors, avec ce livre sur La Fontaine, nous faisons 10 ans d'un premier livre que nous avions déjà édité avec François Punière, Nîmes et ses Antiquités, en 2013. On retrouve d'ailleurs dans le titre cette idée donc, d'un passé présent, c'est le sous-titre du livre. Et là, on s'était intéressé à une période plus réduite, on pourra peut-être en parler que dans le livre sur La Fontaine, puisque là, nous avions étudié la période qui va du 16e au 19e siècle. Donc c'était un livre aussi collectif, où nous avions vraiment choisi d'expérimenter, on va dire, cette notion de réception de l'Antiquité en l'appliquant au terrain nîmois. Alors ça, c'était il y a 10 ans, et puis plus récemment...
Voilà.
Pour ce qui me concerne, j'ai dirigé un livre qui est sorti en 2021 sur l'Antiquité expliquée, représentée en figure, un livre qui a été grande encyclopédie, on peut appeler ça comme ça, du début du XVIIIe siècle, et qui est un livre peut-être que les lecteurs, dont les lecteurs ne sont pas familiers, mais qui est un livre qui a marqué son temps, et qui a permis la circulation à une très grande échelle, à une échelle européenne, de monuments et d'objets de l'Antiquité, et qui est un livre donc, qui s'inscrit justement dans cette veine des études de réception d'Antiquité pour justement essayer d'estimer ce regard qu'on a sur l'Antiquité et la façon dont on peut l'aborder, et est-ce que c'est différent si les Antiquités, on les voit soi-même, ou si les Antiquités, on les voit à travers des lectures que l'on fait, des lectures que l'on fait du texte, mais aussi des images. Et ce qui est intéressant avec Nîmes Faucon, c'est pour ça que peut-être on peut en dire deux mots, c'est qu'il est venu à Nîmes.
Oui, alors justement, il a une part importante dans votre livre dont nous parlons, De la source au jardin. Ce Bernard de Montfaucon, c'est un moine.
Ah oui, c'est un bénédictin. Donc c'est un bénédictin qui appartient à cet ordre des Maurices, qui est alors basé à Paris. Et donc c'est un homme, et c'est aussi quelqu'un qui appartient donc à cet ordre religieux qui est très très important, très bien ancré dans la réalité française et européenne de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. C'est un moine, oui, donc avec sa bure, mais avec son dans sa cellule, mais qui est loin d'être isolé. C'est quelqu'un, notamment pour le livre que l'Antiquité expliquée, qui a conçu cet ouvrage en se fondant sur de nombreuses collaborations. On va lui donner peut-être une autre étiquette aussi, si on veut donner une étiquette, c'est un antiquaire.
Oui.
C'est un antiquaire qu'on appelle... Voilà, c'est un antiquaire.
Et vous dites à certains moments que, je vous cite, c'est un antiquaire et le pionnier quelque part de l'archéologie.
C'est une façon de voir les choses qui est peut-être un peu rapide, mais qui fait sens. Parce qu'il faut s'imaginer que à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, lorsqu'il conçoit son œuvre, il n'est pas encore. On ne peut pas vraiment parler de l'archéologie. On ne peut pas parler de l'archéologie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais donc c'est quand même déjà une recherche qui amorce, on va dire, un regard nouveau et une approche nouvelle des vestiges qui jusqu'alors, on va dire, c'est un peu peut-être caricatural, mais c'est surtout abrité dans des cabinets, ce qu'on appelle des cabinets de curiosité, mais notamment à la faveur de cette antiquité expliquée, vont à une large échelle, on va dire, sortir, on va dire, de ces cabinets, vont donc susciter d'autres questions et notamment un grand intérêt pour le travail de terrain. Et donc, on peut dire de Montfaucon que c'est un antiquaire au sens de celui qui s'intéresse au témoignage matériel de l'Antiquité. Et en ce sens, je crois qu'on peut dire que c'est un pionnier, un prédécesseur peut-être de cette archéologie moderne.
Et alors, c'est un moine voyageur, hein, et c'est, est-ce qu'il vient à Nîmes ?
Alors oui, il vient à Nîmes en 1698. Il vient à Nîmes, c'était pas son objectif.
C'était Rome, hein, il partait en Italie, voilà.
Oui, pour l'Italie, pour collecter des manuscrits. Et puis voilà, il part de diligence, il est accompagné d'un compagnon, comme c'est l'habitude chez les bénédictins. Et il descend donc vers l'Italie, il passe par Arles, qui était sur son itinéraire. Et puis à Arles, il décide peut-être de faire un détour et de venir à Nîmes. Et donc au printemps de 1698, il vient à Nîmes et il découvre avec l'idée déjà, hein, c'est le principe, il découvre les monuments nîmois, la maison carrée, les arènes, et il se rend au jardin de la Fontaine, qui ne sont pas encore les jardins de la Fontaine, puisque en 1698, ceux-ci n'ont pas encore été dégagés et aménagés par Maréchal, ce qui viendra un peu plus tard.
Et oui, parce qu'il faudra qu'on revienne sur cette notion de jardin de la Fontaine, qui est presque moderne, hein, puisque il n'avait pas d'existence, ce jardin, auparavant. C'est une création bien ultérieure.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Montfaucon, je pense que lorsqu'en 1698, il vient au jardin de la Fontaine. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on appelle donc le temple de Diane, et qu'il interroge parce qu'il se demande si c'est vraiment bien ce qu'est cet édifice. Et c'est la Tourmagne. Alors la Tourmagne, il peut pas y monter, dit-il, parce que le temps est exécrable, et donc il n'a pas la possibilité. Mais il dit bien que c'est un point de repère, et s'interroge dans un cas comme dans l'autre, mais aussi pour la maison carrée et pour l'amphithéâtre, sur les usages de ces monuments donc qu'il voit encore bien présents et qu'il a probablement déjà vu d'ailleurs en gravure, mais qu'il découvre alors.
Voilà, alors c'est là aussi on est presque déjà dans votre sujet à vous, c'est-à-dire qu'il va croiser les documents et l'expérience in situ.
C'est une question, oui, tout à fait. C'est manifestement une graine à germer, et ce n'est que quelques décennies plus tard qu'il va leur lancer cette entreprise de l'Antiquité expliquée, où il s'agit de faire connaître au plus grand nombre tous ces vestiges de l'Antiquité, et en recourant à des gravures. Et là, on ne voyage plus, ce n'est plus lui qui voyage, parce que là, il reste dans son cabinet, mais ce sont les images qui voyagent, qui viennent des quatre coins de l'Europe, et notamment de Nîmes, puisque dans le premier volume, en 1719, il n'y a pas encore de gravure de la Tourmagne, mais grâce à l'initiative d'un personnage assez intéressant, d'ailleurs des Grosseuils de Montpellier, une gravure de la Tourmagne va être donnée dans le supplément à l'Antiquité expliquée. Donc c'est des hommes qui voyagent et des images qui voyagent.
Et était-il connu alors, cet homme ?
À l'époque, on peut dire que son œuvre a eu un retentissement au moins européen, oui, sûrement. C'est une grande personnalité dont l'œuvre, d'une part érudite, a peut-être resté dans des cercles plus restreints, mais l'Antiquité expliquée a eu un succès énorme. L'ouvrage a été très rapidement réédité en plusieurs milliers d'exemplaires, il a été traduit en anglais, il y a une version en allemand. Et donc, oui, c'est un ouvrage mésestimé aujourd'hui, mais qui a eu un grand écho. Et tout au long du XVIIIe siècle, Diderot, les encyclopédistes l'ont utilisé. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une période plus sombre, où peut-être parce que l'archéologie, l'œuvre est peut-être apparue comme un peu démodée, un peu dépassée. Et c'est aujourd'hui, à la faveur, je pense, des études sur la réception de l'Antiquité, qu'on redécouvre l'intérêt d'œuvres comme celle de Montfaucon, comme cette Antiquité expliquée et représentée. C'est un homme du Midi, c'est un Audois.
Ah oui. Et donc, grâce à vous, nous le redécouvrons. Et dans votre livre, effectivement, mine de rien, nous aussi, nous allons adopter un parcours chronologique de ce beau livre. Eh bien, c'est au début du livre, en guise d'introduction dans les pas de Montfaucon, et vous lui consacrez 18 pages, fort passionnantes, avant que ne s'égrène la série d'articles qui vont être proposés, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, et je le rappelle, c'est un ouvrage collectif. Mais on va marquer une petite pause, et cette petite pause sera peut-être étrange pour les éditeurs d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, parce que d'habitude, nous cherchons des musiques antiquissimes. Et là, je suis allée chercher Brassens. Écoutons-le. À tout à l'heure, Véronique.
Gasti Belzalom à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Dona Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille homograbine d'Antécara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir, elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
Alors, deuxième partie de cette émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, et nous parlons d'un ouvrage collectif fort beau, De la source au jardin, La Fontaine de Nîmes. Ouvrage dirigé par Véronique Krings, que nous écoutons en ce moment, et François Punière, qui l'a co-dirigé avec elle. Alors, nous avons, je pense, bien expliqué aux auditeurs quelque chose d'assez complexe, qui est cette notion d'antiquité revisitée et la réception donc de l'antiquité. Il faut peut-être revenir sur le titre du livre, De la source au jardin, beau titre, hein, titre sobre et tout à fait explicite, pour donner, peut-être rappeler l'importance de cette source pour ce jardin, qu'on appelle jardin de la fontaine. Mais la fontaine, en fait, il faut bien entendre le sens latin du mot fons. Fons fontis, c'est avant tout la source, même s'il y aura une fontaine, c'est avant tout une source. N'est-ce
oui,
pas, Véronique?
Oui, je pense que c'est intéressant de rappeler cette étymologie, cette eau vive qui sort de la terre et qui va être pour une bonne part à l'origine de l'installation sur ce site d'hommes et de femmes. Donc c'est une source, une eau jaillissante qui est aussi le début d'une histoire avec tout ce que ça a tout le sens, on va dire, historique et tout le mystère aussi qui entoure cette source et cette fondation. Alors pour les historiens, ça c'est peut-être une petite parenthèse. La source est évidemment fondamentale puisque c'est à partir de toute la documentation qui va être collectée qu'on va pouvoir, à travers la longue durée, on va dire, étudier l'histoire de cette source. Et c'est une histoire qui est loin d'être linéaire et qui s'égrène, bah, ce qui est fantastique, je dirais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, grâce à une documentation, on va dire, qu'on peut qualifier de foisonnante.
Alors cette documentation, justement, il faut en parler parce que dans le livre, il y a bien sûr beaucoup d'explications qui sont à la fois érudites mais très faciles à suivre. Et quantité de photos, hein, vous parliez, on a déjà parlé de photos dans une exposition que vous aviez faite. Nous avions parlé avec notre personnage de Faucon de son goût pour les images qui a commencé à le tourner vers Nîmes. Eh bien, dans ce livre, il y a abondance de photos, de dessins, de peintures, de croquis. Enfin, c'est vraiment agréable de faire ce parcours qui est extrêmement à la fois abstrait et concret.
Ah oui, bah, mais je voudrais peut-être dire juste quelques mots sur les éditions les éditions Mergoal. C'est une maison, et remercier d'ailleurs encore, ainsi que leur directrice Claire Léger, parce que là on a eu de la chance, on a eu une maison d'édition qui est sensible à l'approche archéologique et qui donc a veillé à des reproductions qui sont d'excellente qualité. Et ce que peut-être, on peut dire aussi, c'est que cette documentation, on a essayé de la faire parler, c'est-à-dire de ne pas donner des belles images sans que le lecteur puisse, en fonction de son intérêt, essayer, disons, de les étudier. Ce ne sont pas des copier-coller de la réalité, ce sont donc des images qui demandent à être interprétées.
Et contextualisées.
Dans mon livre, voilà, ça c'est... Oui, c'est ça, contextualiser. Et on a aussi une chance extraordinaire, c'est que tous les contributeurs du livre ont vraiment joué cette carte d'essayer de faire passer ce message. Regarder, interpréter, tenir un discours construit et scientifique hein, sur ces images, qui, au-delà de ce qu'elles peuvent être belles, de ce qu'elles peuvent nous émouvoir et nous toucher.
D'ailleurs, la couverture du livre, j'ai dit qu'elle était fort belle, mais en même temps, elle est très explicite puisque elle combine énormément d'éléments architecturaux pour nous dire que oui, c'est très touffu comme sujet.
Oui, c'est touffu et je pense que l'aquarelle, ce document, cette aquarelle. Elle donne aussi des potentialités, on va dire, de rapport à la réalité et à l'imaginaire qu'inspire, on va dire, le site de La Fontaine. Alors peut-être qu'on...
Oui, je vous laisse, je vous écoute avec plaisir.
Ce dont je voulais juste dire peut-être aussi, c'est que le lecteur retrouvera dans le livre, pour part aussi des objets, il y a des monuments qui sont... qui le sont de nouveau, qui ne l'étaient plus, mais aussi des objets qui sont conservés au musée de la Romanité, et qui, pour lequel finalement on peut faire un lien entre ce livre et le musée dans l'option qui a été faite, comme au musée de la Romanité ici, de choisir la longue durée. Et donc le lecteur va avoir un déroulé de l'histoire depuis les débuts, depuis ce qu'on appelle la proto-histoire, jusqu'aujourd'hui. Et comme au musée de la Romanité, il y a donc ce lait, cet héritage de l'Antiquité qui est constamment présent, qui est bien présent, peut-être plus justement dans le livre. Donc la longue durée, c'était aussi un challenge, puisque ça demandait de faire appel à des spécialistes chaque fois de chaque dossier et de chaque période et d'étudier de façon pertinente la documentation disponible et d'essayer de faire passer tout ce savoir, toutes ces connaissances à un public qui est aussi un public qui n'a pas encore eu l'occasion de flâner dans les jardins.
Et alors, justement, ce public, chaque fois je l'incite à aller au musée de la Romanité, il pourra justement admirer une des statues que j'aime énormément, la statue d'accroupi de Villa Roma, est insérée dans un des articles, effectivement, qui développe l'idée de la sacralisation du lieu. Hein, parce que cette statue, elle a une histoire religieuse, on va dire.
Oui, en tout cas, si on peut dire religieuse, on peut dire rituelle. Je pense que c'est, de mon souvenir, le mot qu'utilise Michel Py, qui évoque ce document je suis aussi attachée à cet accroupi, cette statue d'accroupi, qui est aussi, Michel Py l'explique bien, le plus ancien document qui a été, donc, à caractère rituel, qui a été recueilli près de la source de La Fontaine, là, dans les années 90 du XXe siècle. Et il pose, c'est vrai, vous avez raison, la question de cette sacralisation, on va appeler cette sacralisation, ce côté de l'endroit en lien donc avec La Fontaine et à proximité, parce qu'il a été trouvé à proximité du à proximité, oui. On va dire, dans le secteur ouest, on est à proximité de ce qu'il sera, parce que le document, cette statue accroupie, elle date, on la date généralement entre le 4e, 3e, 2e siècle avant notre ère.
Oui, donc elle est vraiment très, très ancienne dans l'histoire des jardins de La Fontaine, même si c'est vrai qu'on peut remonter à la proto-histoire hein, pour ce site. Mais d'ailleurs, il y a une partie du livre qui se consacre à cette période. Mais on l'a trouvée face contre terre et qui avait été remployée dans la tranchée de fondation d'un mur.
Exactement. C'est intéressant de peut-être aussi de, ça peut susciter des questionnements et l'intérêt des auditeurs et des lecteurs qu'une statue comme celle-là, elle a eu un premier usage que les archéologues essayent d'éclairer. C'est ce que fait Michel Py pour essayer de donner à voir ce qu'était le site proto-historique, l'occupation proto-historique du site. Mais au fil du temps, entre le moment où elle a été conçue et installée, probablement avec des idées rituelles, elle a ensuite été, en fonction des aléas du temps, réutilisée. Et puis, on peut la revoir, alors cette fois-ci, au musée de la Romanité. Donc, c'est une histoire très vivante, l'histoire du jardin de La Fontaine, du lieu et des objets qui l'ont, et des hommes, évidemment, qui l'ont occupé.
Oui, et on imagine que cette histoire n'est pas finie puisque on va avoir des regards encore qui vont se multiplier à l'infini au fur et à mesure des époques. Dans ce livre magnifique, il y a quand même 11 auteurs hein, qui ont contribué à raconter ce panorama des jardins de La Fontaine, des gens très connus et passionnants que nous connaissons bien ici. Je suis citée, mais évidemment, j'ai aimé toutes les entrées. Marc Cellier, hein, qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors d'une exposition, d'une émission consacrée à une exposition au Musée de la Romanité sur Golvin. Alors, évidemment, Pardon ?
Oui, non, vous faites bien d'évoquer tous les noms des auteurs qui seront probablement évocateurs pour, ou en tout cas qui sont chaque fois de précieux guides pour nous mener dans l'étude de La Fontaine.
Eh bien, on n'a pas eu le temps de parler de tout, mais ce n'était pas le but. Hein. Le but, c'est justement de faire comprendre l'originalité, la richesse de ce livre dans la documentation. Il n'y a qu'à voir à chaque entrée, chaque article, la bibliographie abondante. Et on ne pourrait que vous remercier, Véronique, de cette initiative et du temps passé à nous expliquer votre livre. On vous remercie, on vous dit à une prochaine fois.
Ah bah, merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs et à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Alliance Plus.